allégresse. On se réjouit dans le Seigneur. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Exalté soit l'Éternel. Ah ça, c'est quand tout va bien. Ça, c'est dans les moments où on sent qu'il y a la grâce de Dieu, on est bien et tout. Et puis après, il y a le verset 18. Hein. Moi, et c'est David qui parle, je suis pauvre et indigent. Indigent qui manque du nécessaire pour vivre. Allez. Le roi David devait passer par un moment vraiment difficile pour dire « je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. » Et combien, lorsque tout va mal, eh bien, cette pensée peut nous faire du bien. Il pense à moi. Il est mon aide. Il me soutient. Mon libérateur. Et puis ce verset « mon Dieu ne tarde pas. » Mon Dieu ne tarde pas. Et ce sera le thème un petit peu de cette méditation ce matin. Mon Dieu ne tarde pas. D'abord, je voudrais dire que c'est bien de dire « mon Dieu ne tarde pas à Dieu », mais que souvent, nous avons tardé à obéir à Dieu. Que souvent, nous avons été en retard selon le plan de Dieu. Et que nous sommes les premiers concernés s'il y a un retard, souvent, très souvent. Moi, je reconnais, Seigneur, que je n'ai pas toujours obéi instantanément à ce que tu voulais. Quelquefois, j'ai fait la forte tête. Que quelquefois aussi, j'ai préféré faire autre chose. Ça vous est jamais arrivé, vous ? Ouais, gens spirituels ce matin, magnifique. Alléluia, on va aller plus loin alors. Hein ? Ouais. Alors ce matin, voilà, bon, hein, une fois qu'on remet les choses à leur place, on peut revenir... À cette supplication, à cette prière instante de David, « Mon Dieu ne tarde pas ». Qui n'a jamais eu ce sentiment de la réponse de Dieu à un besoin pressant, légitime et long, très long à venir ? Que le temps passe et que rien n'arrive. Et qu'il semble même que ce soit trop tard. Trop tard, il a trop tardé. Et je crois que c'est un sentiment qu'un jour ou l'autre, on ressent dans son cœur. Lorsqu'on a mis toute notre foi, toute notre énergie, et puis que la chose n'est pas arrivée comme on le voulait. Souvent, on se fait des films, on se dit « ça va se passer comme ça ». Et puis, ça n'est pas passé. Est-ce que Dieu a tardé ? En tout cas, nous avons l'impression que lui, il tarde. Que c'est trop long, qu'il faut qu'il agisse. Dans le psaume 119, au verset 126, il est écrit, psaume 119, verset 126, on ne va pas lire tout le psaume, mais juste le verset. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Non, c'est voilà, 126. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. Il est temps que l'Éternel agisse. Je me souviens d'une prédication qu'avait portée le pasteur de l'époque, M. Mazella. Il avait pris ce texte, il avait dit « Il est temps que l'Éternel agisse ». C'était une petite réunion, on n'était pas nombreux, mais le soir, quand je me suis retrouvé dans ma chambre, j'avais ce verset qui revenait dans mon cœur « Il est temps que l'Éternel agisse ». Et c'est vrai. Que ce psalmiste a regardé ce qui se passait autour de lui, il a considéré les hommes, les femmes qui étaient de son temps, et ils disent « mais ils transgressent ta loi ». Ce sont des gens qui n'obéissent pas aux commandements de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quelle que soit l'action qu'on mène, quelle que soit l'énergie qu'on peut mettre, à un moment donné, on se dit « Non, il n'y a plus qu'une seule solution. » C'est que l'Éternel agisse. Dieu n'a-t-il pas attendu justement que nous arrivions à cette constatation que seul lui peut agir ? Que seul lui peut agir ? Et c'est vrai qu'en ce moment, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je vois ce qui se passe, quand je vois par exemple certains tableaux de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, quand je vois les commentaires qu'on y associe, quand je vois la façon dont on a étouffé la voix de l'Église, la voix de Dieu, quand je vois combien on dit que les choses mauvaises sont très bonnes et qu'on nous interdit de dire qu'elles sont mauvaises, surtout pas. Quand je vois les lois qui de plus en plus mettent la pression sur l'Église, demandez à tous ceux qui s'occupent un petit peu de l'organisation de l'Église combien les dernières lois sont compliquées à mettre en place. On est regardé à la loupe, alors que vous pouvez faire n'importe quoi avec une autre association, si elle n'est pas culturelle, on peut faire n'importe quoi. Mais là, culturel, si vous avez une association culturelle, vous faites un club de sport de n'importe quoi, et il ne vous arrivera rien. Mais là, si vous êtes une église, vous êtes suspect. Suspect. Vous avez le droit d'exprimer toutes les opinions, sauf de prêcher l'évangile, car vous faites du prosélytisme. Et nous ne sommes pas comme ce psalmiste. On se dit, mais il transgresse ta loi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a ce cri du cœur, il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps. Et vous savez, le temps, ça va vite. Ça nous échappe, ça nous file entre les doigts. On a l'impression que plus ça va, plus ça s'accélère. Enfin, pour moi, c'est cela. Les années se succèdent. Bientôt, ça va faire combien, 46 ans que je suis baptisé là? Il y avait un baptistère là, à peu près ici. Voilà. 46 ans. C'est toute une vie ça. Hein, c'est passé si vite. J'ai tant aimé l'Église et ce que je me suis fait du bien dans cette Église. 46 ans, c'est passé trop vite. Je vais encore passer 46 ans dans l'Église. Rassurez-vous, on m'aura retiré de la prédication bien avant. Le temps nous échappe, mais j'aimerais vous dire quelque chose ce matin avec force, avec assurance, c'est que Dieu tient les temps et les circonstances dans ses mains. Alléluia. Et que lui, rien ne lui échappe. Et que si l'on a l'impression qu'il tarde, lui agit, lui fait. Et le temps lui appartient. Dans Daniel, chapitre 2, versets 20 à 21, j'aimerais qu'on l'affiche, qu'on voit ensemble ce qu'il est dit, ce que Daniel dit de Dieu, ce que Daniel affirme. C'est lui, en parlant de Dieu, qui change les temps et les circonstances. Je vous avais dit, il tient le temps et les circonstances dans sa main, et c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Le verset 20, s'il te plaît. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. » S'il y a un endroit où il est question de temps, c'est bien dans l'éternité. Ah ben, mon Dieu, c'est le Dieu de l'éternité. Il est écrit à plusieurs fois, il est le Dieu de l'éternité. Il était avant la création, il sera après la fin. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Amen. À un moment donné, le temps ne nous filera plus entre les doigts. À un moment donné, nous ne serons pas là à regarder dans le miroir. Aïe, 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 le temps a fait son travail. Ou alors, aïe, 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 le temps a fait son travail pour certaines autres personnes. Bon, merci Seigneur, pour l'instant, ça va. À ce niveau-là. Même s'il y a des petits cheveux blancs de plus en plus, ça grisaille par là-haut. Ce n'est pas grave, je ne le regarde pas dans la glace. Seigneur, à un moment donné, le temps ne nous filera pas entre les doigts, mais aujourd'hui, bien celui qui est le maître du temps, comme dans un certain jeu télévisé, il y a le maître du temps, c'est Dieu. C'est lui qui tient tout ça dans sa main. Et ça, c'est important. Ça, c'est magnifique. Notre Dieu gère, maîtrise parfaitement les temps et les circonstances. Il n'y a rien qui lui arrive trop tôt ou trop tard. Il sait établir. Et d'ailleurs, il y a des choses que seul Dieu sait concernant le temps. Seul Dieu sait. Et même Jésus va jusqu'à dire, seul le Père sait les temps. et chercher à trouver les temps, savoir, quelquefois, c'est essayer de deviner ce que Dieu va faire. À un moment donné, ça devient malsain. Il faut reconnaître, et nous le reconnaissons, que nous sommes sensibles au temps, que nous naissons et qu'à un moment donné, le temps va achever son travail et que nous partirons avec le Seigneur, à moins que, dans le ciel, Dieu ait décidé, c'est le moment, il n'y a plus de temps, je reviens. Jésus revient. Amen. Il maîtrise parfaitement le temps. Et j'aimerais voir avec vous que cette maîtrise du temps, eh bien, elle est pour nous une source de foi, une source d'inspiration, une source de confiance dans le Seigneur, une source d'assurance dans la parole de Dieu. C'est lui qui maîtrise. Alléluia. Je ne sais pas. Il faut arriver à dire à un moment donné, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Souvent on dit pourquoi. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'il tient tout ça dans ses mains. C'est que mon Dieu est puissant et qu'il maîtrise. Lui, il maîtrise parfaitement. J'aimerais qu'on va lire avec vous Acte 3, versets 1 à 3. Acte 3, versets 1 à 3. Il m'a semblé que là, il y avait matière à réfléchir ensemble sur cet aspect du temps que Dieu tient dans ses mains. Regardez, ça commence par Pierre et Jean montés ensemble au temple. À quelle heure? À l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Voilà, ça c'était le temps. C'était le jour où Pierre et Jean montaient au temple. Ils étaient montés tous les jours précédents. La Bible dit qu'ils étaient, des chrétiens étaient tous les jours au temple. Donc ils étaient là depuis toujours. Et puis le verset 2, nous avons ici un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et moi j'imagine, je ne sais pas, des gens qui le portent là, il devait être le mendiant, quelqu'un qui n'avait pas eu le temps de prendre une douche, qui n'avait pas des vêtements propres, qu'on déposait là comme ça, en disant, allez, ciao, on repasse ce soir. Hein? Et s'il était un peu trop au soleil, il essayait de se mettre à l'ombre en se traînant. Je le vois là en train de tendre la main, de regarder s'il y avait une piécette, et se dire, ce soir, je n'ai pas encore assez à manger. Et il est là. Et tous les jours, c'était la même chose. Tous les jours, c'était la même chose. Ça se répétait. La Bible dit, on le plaçait tous les jours à la porte du temple. Et il devait remercier le Seigneur d'avoir des amis, des connaissances qui le portaient. Mais voilà, pour lui, ce jour-là, à la neuvième heure, c'était le temps de Dieu. À la neuvième heure, ça a été le temps de Dieu. Ce jour-là, Pierre et Jean passaient comme d'habitude. Et peut-être que d'habitude, ils avaient des pièces. Je ne sais pas, j'ai imaginé que la coup d'avant, ils avaient une pièce. Mais là, ils n'avaient plus rien. Ils avaient les poches vides. Et ils l'ont vu, ils se sont dit, mais j'ai rien. On n'a ni argent ni or. Mais ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit qu'il se levait d'un bond. C'était le premier bond de sa vie. Et c'était à la neuvième heure, ce jour-là, c'était le temps de Dieu. Et j'aimerais qu'on réfléchisse un instant, qu'est-ce qui a changé par rapport aux autres jours? Rien. Qu'est-ce qui a changé par rapport au jour d'après? Rien. Ce qui a seulement changé, ça s'est passé dans le ciel. C'était le temps de Dieu. Qu'est-ce qui peut changer aujourd'hui pour vous? Eh bien, c'est simplement dans le ciel. C'est le temps de Dieu qui peut arriver. C'est le temps de Dieu qui peut être là. Et à ce moment-là, Dieu peut utiliser ses serviteurs comme Pierre et Jean pour dire « Lève-toi et marche !» Et il s'est levé d'un bond. Et qu'est-ce qui avait changé? C'était que c'était le temps de Dieu. Alléluia. Et nous avons besoin ce matin de renouveler notre confiance en soi. Nous avons entendu des dons spirituels et il y en a un qui parlait de la foi. Et j'aimerais continuer, moi, ce don spirituel humblement, parce que ce qui est en question ce matin, c'est notre foi. C'est notre foi. Cette prédication a un but. Allez, je vais vous dire le but, que notre foi en Dieu soit renouvelée, soit fortifiée et grandisse dans nos vies. Amen. Exactement le don spirituel. Voilà, c'est le but. Vous savez, quelquefois j'entends des chrétiens qui disent « Oh, je ne viens pas cet après-midi, c'est une évangélisation. » Ouais. Mais excusez-moi. Mais lorsqu'on annonce l'évangile simplement, lorsqu'on annonce les bases de l'évangile, il y a quelque chose dans le cœur du chrétien qui est nourri, c'est sa foi. Et si vous avez ce raisonnement, vous vous trompez. Moi, je dis toujours, allons à toutes les réunions, même les réunions d'évangélisation, ça fait 50 ans que je suis converti, c'est pas grave. Parce que quand on annonce la croix du calvaire, quand on annonce la mort et la résurrection de Jésus, on a toujours quelque chose à recevoir. On a toujours la foi qui est encouragée par la base de notre foi, c'est Christ. Alléluia. Et la croix, c'est toujours un encouragement pour nous. C'est toujours un besoin. Nous avons besoin de fortifier notre foi à l'écoute de l'Évangile. Ce matin, réalisons simplement combien Dieu peut changer les temps, combien il peut changer les circonstances. Il est maître de tout cela et on va s'imbiber de cette pensée, on va la prendre en nous et on va se dire là, le Seigneur est capable d'un mot de décider que oui, c'est le jour de ma bénédiction, c'est l'heure de ma délivrance, c'est la seconde où il va me faire ce premier bond, le premier bond de ma vie, ce premier saut. Ce première fois où ses jambes le propulsent en l'air. Ah oui, ça vient de Dieu. Ça, c'est décidé dans le cœur de Dieu. Ce que je sais, moi, et comme on l'a lu tout à l'heure dans le psaume, c'est que Dieu m'aime. Vous avez réalisé ça, Dieu m'aime. Donc, si Dieu m'aime, je sais qu'un jour, il y aura un temps pour moi. Ce n'est pas possible qu'il y ait un temps pour tous ces enfants et qu'il n'y ait pas un temps pour moi. Il y aura un temps pour moi. Un temps où je réaliserai qu'à la neuvième heure grecque, en Israël, c'était 15 heures. Vous êtes prêts à entendre la prédication jusqu'à 15 heures? Non, je ne le ferai pas. C'était 15 heures. Comme quoi tout est relatif sur la terre, hein? 9h, 15h. Quelle heure il est là en ce moment à Tokyo? Y a quelqu'un qui le sait? Non. Tout est relatif. Tout est relatif, sauf une heure. Elle est universelle. Elle est universelle. C'est l'heure de Dieu. Elle est universelle. Rien n'arrête l'Église qui croit, qui a des convictions et qui place sa foi dans la parole de Dieu. Rien n'arrête l'Église, rien n'arrête le chrétien qui croit, rien n'arrête cette femme à la perte de sang parce qu'elle sait que si elle touche le bord du vêtement de Jésus, elle est guérie. Et rien ne t'arrêtera si la foi vient dans ton cœur, si tu te sors de ce lieu en disant « Je sais que le Seigneur tient tout ça dans ses mains et qu'à un moment donné, il va me donner » la foi, la grâce, la bénédiction, et que ce sera le temps de Dieu pour moi. Amen. Que cette pensée que Dieu tient les temps et les circonstances, ce n'est pas les gens qui nous entourent, ce n'est pas nos pensées, c'est Dieu qui tient les temps et les circonstances. Que cette pensée que nous mettons dans notre cœur ce matin, cette pensée qui tient tout dans ses mains, que cette pensée soit pour nous le moyen de faire taire les petites voix que nous avons, les petites voix à l'extérieur et à l'intérieur. Celle qui dit « mais c'est pas possible », celle qui nous dit « mais ça n'est jamais arrivé », celle qui nous dit « mais c'est trop vieux ou trop jeune », celle qui nous dit que ceci ou celle-là, cette impossibilité ou cette... Oui, d'accord, c'est pas possible. Mais Dieu tient tout dans ses mains. Dieu tient tout dans ses mains. Il est capable de tout, il peut tout faire. Il nous donne en abondance. Alléluia. Oh oui, il y a telle raison pour que ça ne marche pas. Il y a telle autre raison pour que je ne m'en occupe plus. Mais si dans le cœur il vient cette pensée, si on s'imprègne de cela, de la parole de Dieu, qu'on se dise « mais oui, c'est vrai, celui qui décide, ce n'est pas tous ceux qui me disent que ce n'est pas possible. Celui qui décide, ce n'est même pas moi, avec ma logique. Celui qui décide, c'est lui. Celui qui tient ma bénédiction dans sa main, ce n'est pas le pasteur. » Ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas le grand prédicateur qui n'est pas encore venu à Martigues, qu'on inviterait, ah oui, celui que j'ai écouté sur Internet, alors lui, il a la foi. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, maître des temps et des circonstances. Vous savez, un jour, Marie a eu une visite un petit peu... exceptionnelle, hein, quand même. Hein. Elle était tranquille. C'est une belle jeune fille. Elle avait rencontré son Joseph, qu'il était beau, Joseph. Elle était heureuse. Elle n'a rien demandé à personne. Et d'un coup, elle s'est vue avec un ange. Gabriel. Il y a un Gabriel ici, là. Ouais. Ben, il y a l'ange, malheureusement, il a porté ton prénom avant. Il s'appelait Gabriel. Elle a été impressionnée. Elle a été bouleversée. Mais vous savez ce que lui a dit l'ange ? Luc 1, 37. On pourrait peut-être l'afficher. C'est bien qu'on affiche la parole de Dieu. Voilà. Non, c'était bien, là, le premier verset, ça me plaît. 37, hein ? 37. Ça, il n'y a pas besoin de commentaire. Hein. Car, rien n'est impossible à Dieu. Moi, il y a tellement de choses qui me sont impossibles. Tellement de choses que même certaines personnes font et que je n'arrive pas à faire. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et Marie, elle a une chose importante, c'est qu'elle y a cru. Elle a cru. Et elle a porté Jésus dans son sein. Et elle a élevé Jésus jusqu'à ce qu'il puisse commencer son ministère. Et elle l'a suivi à la croix. Elle était là, à pleurer la mort de son fils, la mort du Fils de Dieu. Elle était là lorsqu'il a ressuscité. Elle était là le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu sur l'Église. Elle a cru que rien n'était impossible à Dieu. Ah, mon Dieu, ne tarde pas. C'est vrai que souvent, on revient quand même. Malgré tout ça, on revient, on revient, on revient. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est dans cette situation ? Lorsqu'on se dit, mon Dieu, ne tarde pas. Mon Dieu, ne tarde pas. Ben, croire simplement que le temps de Dieu est en marche. Le temps de Dieu est prendre soin de sa foi. On va prendre soin de notre foi. Est-ce que vous avez déjà réalisé que vous devez prendre soin de votre âme aussi et nourrir votre foi? J'ai fait un jardin potager. Cette année, je suis presque à la retraite. Alors j'ai retourné un morceau de champ là. Et puis après, j'ai ratissé, j'ai enlevé les racines, j'ai aplati, puis j'ai creusé des trous régulièrement, mis du compost que j'avais fabriqué pendant toute l'année, hein, et j'ai mis mes plants de tomates. Après, ce n'était pas fini, on a recouvert, j'ai mis le goutte à goutte, puis j'ai mis des tuteurs. Oh, du tuteur comme ça, et en travers, paf, pour que... Ça, franchement, c'était super bien. Et puis après, je suis parti. Voilà. Pendant 15 jours, j'étais là, j'arrachais le petit grain d'herbe qui poussait à côté, j'attachais, allez, waouh, il était comme ça, comme ça, comme ça, tout était bien. Puis je suis parti en vacances. Et quand je suis revenu, il y avait de l'herbe jusque-là. Je remercie le Seigneur parce qu'on a quand même des tomates. Voilà. Mais enfin, quand même, ça s'entretient. Pourquoi j'ai laissé pousser l'herbe comme ça? Parce que j'étais pas là. C'est simple, on entretient un jardin. Et sa foi. Et sa foi, on la laisse comme ça. On la laisse. Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous le savez, vous. Hein, à un moment donné, il faut arrêter la télé, l'ordinateur, la tablette, le téléphone. C'est pas facile, n'empêche. Hein. On se serait jamais imaginé, il y a 20 ans, comme le téléphone allait être un problème. On pensait que ça allait libérer les choses et on s'aperçoit aujourd'hui que ça nous lie. On est tout le temps en train de dire oh, « Combien de médailles, alors ?» Vous ne faites pas ça. Bon. Ils n'ont pas marqué un but, là? Ah non, pas encore. Et puis, on cherche. Et j'ai reçu un message. Je suis parti. Ah, oh, elle est partie. J'arrive. Ah, oh, elle arrive. Cling. Formidable. C'est essentiel. Hein, c'est essentiel. Il faut arrêter. Je pense qu'à un moment donné, eh bien, il faut arrêter tout ça. Il faut prendre sa Bible. On entre dans sa chambre ou dans un lieu où on a l'habitude de prier, un lieu calme, un lieu où on est bien. Peut-être que c'est en ce moment, c'est la salle à manger, vous avez un petit refresh, quelque chose d'un peu plus frais que la chambre ou quoi. On ferme la porte et on cherche le Seigneur. Mais on le cherche de tout notre cœur. Combien de temps, j'en sais rien, ça appartient à Dieu. Je crois que si on cherche de tout notre cœur 5 minutes, ça vaut mieux que pendant 2 heures à... On cherche le Seigneur. Puis on va aux réunions. Ah oui. Si Dieu a instauré l'Église, s'il parle de l'Église, s'il en note la valeur, et ça serait bien qu'un jour on fasse une étude sur l'Église dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Amen. Oui, on a besoin les uns des autres. On a besoin des jeunes. Ouh, t'as vu les jeunes, hein? Des anciens, attention. On a tous besoin les uns des autres. On va aux réunions et surtout on écoute. Quelquefois, je m'endors. J'avoue que ça m'est arrivé. Des réunions le soir où j'avais trop travaillé peut-être, ou trop dormi. Alors que quand je suis à l'écoute, je reçois. Être à l'écoute. On nourrit sa foi par des chants, par des cantiques, par des psaumes. On s'engage dans l'Église. On fait quelque chose pour le Seigneur. Combien c'est réjouissant de faire une chose pour le Seigneur. On est là un peu contrarié au départ et tout, puis quand on a fini, alléluia, merci Seigneur, j'ai pu faire quelque chose pour toi. Il y a tellement de choses. Et puis, on établit des vraies relations les uns avec les autres, des vraies relations les uns avec les autres. Moi, j'ai connu des gens qui venaient à l'église, ils voulaient parler à personne. Ouais. Même quelqu'un, il est arrivé une fois, on avait une toute petite église à Port-Saint-Louis, et je vois, on était 4 ou 5, et je devais apporter les autres. Et je vois arriver un gars qu'on n'avait jamais vu. Il s'assoit derrière. « Ouah, je prêche l'évangile de tout mon cœur. Ouah, 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 ouah. » Et à la fin, je vais le voir, je dis « Alors, ça vous a plu ?»« Oh, moi, vous savez, je suis venu pour avoir du silence. » Toute cette énergie que j'ai dépensée. Et lui, il voulait avoir le silence. Maintenant, il peut retourner dans ce temple puisqu'il n'y a plus de réunion. Il a le silence. Établir de vraies relations avec nos frères et sœurs, c'est important ça aussi. C'est pas simple. Oh, tu vas bien? Ça va, toi? Oh. C'est l'heure, vite, on a le poulet. Allez, vite. S'éloigner de certaines fréquentations qui nous empêchent de progresser. Il y a des gens, ils sont très gentils. Le voisin, il est très gentil. Il est très gentil. Mais ce n'est pas normal d'être toujours chez lui et que lui soit toujours chez nous. Chacun, c'est soi. n'est-ce pas? Très gentil. Et il y en a d'autres, même dans notre famille. Je me rappelle une fois, on a ressenti avec mon épouse qu'il fallait qu'on aille moins dans, chez ma sœur. Ouais, ça n'allait pas. Enfin, vous voulez que je vous dise, moi, je ne sais pas, hein, il faut mettre un plan. Il faut que vous établissiez un véritable plan pour fortifier votre foi. Un plan. Vous savez, le fils prodigue, vous rappelez du fils prodigue? Il est tombé. À un moment donné, il voulait même manger la nourriture des cochons. Lui, le juif, il était en train de garder les pourceaux. Et il se serait vautré avec eux pour un peu de nourriture. Eh bien, ce fils, tout bête qu'il était ce jour-là, il a fait un plan. Un plan pour s'en sortir. Un plan. Il s'est dit, je vais aller vers mon père, je ferai ci, je dirai ça, je me mettrai comme ça. Il a fait son plan. Et certainement, il y avait la route aussi qu'il devait faire. Je partirai demain matin, très tôt, pour arriver là avant la chaleur. Enfin, il a fait un plan et il a mené à bien son plan. Et qu'est-ce qui s'est arrivé lorsqu'il est arrivé devant son père lui a ouvert grand les bras. Moi, je vous dis que si vous faites un plan spirituel pour votre vie, ça va remplir de joie le cœur de Dieu. Amen. C'est pas compliqué de faire un plan. Hein? Vous prenez une feuille comme ça. Et vous dites, Seigneur, maintenant, voilà, je vais faire ça tel jour, telle heure. Et puis, mais ne marquez pas, je vais prier de 3h du matin à 6h du matin, c'est pas la peine, ou je jeûne 5 fois la semaine. Non, faites un plan qui vous semble cohérent avec votre vie, vos occupations, mais qui vous permette de solidifier votre foi. Vous savez, le jeudi soir, on n'est pas nombreux à venir à la réunion de prière. Mais ça, c'est l'ossature de l'Église. C'est grâce à cette réunion de prière que l'Église tient debout. Et il faudrait que, dans votre plan, de temps en temps, il y ait réunion de prière. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. C'est vous qui faites le plan. Voilà. Mais je pense qu'on a besoin d'un plan pour fortifier votre foi. Une véritable stratégie. On ne doit pas dire, quand j'ai le temps, je vais à la réunion, quand je fais ci, ça c'est possible aussi, on peut vivre comme ça, mais on passe tellement à côté de grandes bénédictions, des temps de Dieu, des moments où il va répondre. Et si le temps de Dieu pour votre vie, ça, c'était un jeudi soir à 19h45, je ne sais pas moi, ou le jeudi après-midi, ou alors à une réunion d'annexe, je ne sais pas moi, je ne tiens pas ça dans mes mains. Et j'essaye même pas de deviner ce que ce Seigneur va faire. J'essaye simplement de vous dire, il faut un plan. Parce que je vais vous dire quelque chose. Il y en a un qui a un plan. Il y en a un qui a un plan pour détruire notre foi. Ah ouais, moi je trouve ça dans Matthieu 13, 24 à 30, on peut l'afficher. Matthieu 13, 24 à 30, voici le plan du diable. Voilà. Matthieu 13, voilà. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Ça, c'était l'homme, avant de semer, il a fait tout le travail. Et il a remué, et il a enlevé les pierres, les racines. Puis à un moment donné, il a tout aplati, bien propre, bien fin, et il a semé. Mais pendant que tout le monde dormait, et c'est bien, des fois on a besoin de dormir, son ennemi vient, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Pendant tout le temps qu'il travaillait la terre, pendant tout le temps qu'il ensemençait son champ, l'ennemi veillait et regardait. Et s'est dit, là, il a fait du travail. Là, il faut que je fasse quelque chose. Dans la parabole avant, de toujours Matthieu 13, il est écrit que c'est l'ennemi qui vient et qui enlève la parole de Dieu, les oiseaux qui viennent picorer. L'ennemi a un plan. Et quand tout le monde dormait, il s'est levé. Et il a commencé à semer. Pas dans un petit coin, mais il a pris la peine d'aller dans chaque sillon, dans chaque endroit où il avait été semé. Et c'est peut-être que même par endroit, il a un peu appuyé pour que la semence soit en terre, là. Voilà, vraiment. Il a semé livré. Et le matin, quand tout le monde s'est arrivé, le champ était impeccable. Mais si on regardait de près, il y avait les marques de l'adversaire, de l'ennemi sur le champ. Il avait un plan et ce plan a fonctionné. Vous savez ce que c'est livré en grec ? Zizonia, la zizanie. C'est ça livré. C'est le plan, c'est la zizanie. La zizanie entre les chrétiens, la zizanie entre un chrétien et son Dieu, la zizanie dans les couples, la zizanie dans l'église, la zizanie. C'est le plan de Dieu. Il a un plan. Il se dit ça va marcher et ça marche. Si on n'a pas un contre-plan pour fortifier notre foi, ça marche. C'est pour ça que je vous dis, moi, qu'il nous faut un plan. Il nous faut une stratégie. Dans Romains 10, 17, notre stratégie pour fortifier la foi, elle est là. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Oh, là, je commence à voir le plan de Dieu pour nourrir ma foi. Il faut que ça vienne de Christ. Il faut que ça vienne de sa parole. Alors, comment est-ce que je peux nourrir ma foi? Comment la foi pourra venir dans mon cœur? Vous savez, dans une réunion d'évangélisation, lorsqu'il y a une personne qui rentre pour la première fois, elle ne sait pas qu'elle peut avoir la foi. Elle ne sait même pas en qui elle peut croire. Et on annonce, le serviteur de Dieu annonce la parole de Dieu de tout son cœur, l'Esprit de Dieu travaille et d'un seul coup les yeux s'ouvrent et cette personne s'aperçoit qu'elle commence à croire. Cette personne se dit « mais c'est vrai, mais ça existe !» Et elle se tourne vers Dieu. À combien plus forte raison avons entendu les oracles de Dieu depuis des années et des années. Nous qui avons placé notre foi en Christ, nous qui avons marché avec le Seigneur pendant des années, serons-nous bouleversés à l'annonce de la parole de Dieu? À chaque fois, elle viendra encourager notre foi, bouleverser la lecture de la parole de Dieu. Quand je lisais la Bible hier après-midi, hier soir, et que je suis tombé sur ces versets, « Mon Dieu, ne tarde pas, j'ai les yeux qui me sont remplis de larmes. » Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Je me suis dit, « Mais c'est vrai, Seigneur. » Je rejoins David, le roi David, et je dis, « Ne tarde pas, mon Dieu. » Mais le Seigneur m'a dit, « Je ne tarde pas. » Je tiens tout ça dans mes mains. Je ne tarde pas. De la même façon, pour le retour de Jésus, vous connaissez ce texte qui nous dit que Dieu ne tarde pas, mais il désire que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Je crois que c'est dans l'Épître de Pierre. Dieu ne tarde pas. Il a un projet. Ah, si seulement on pouvait garder cela dans notre esprit ce matin. Dieu ne tarde pas. Il a un projet. Il tient cela dans ses mains pour moi. Il a un projet pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour tout le monde. Il a un projet pour moi. Et il n'a pas tardé jusqu'à maintenant. Tout ça a été une préparation pour le projet que Dieu veut me donner. Nous devons avoir une stratégie qui est basée sur la parole de Dieu, la parole prêchée, la prédication de la parole, sur la parole lue. Nous devons avoir une stratégie avec un plan de lecture de la parole de Dieu. Ah ben moi, tiens, je vais lire... Ça s'ouvre toujours au même endroit. Tiens, ça, je l'ai déjà lu hier. Ben, je vais le relire. Voilà. Ça, ce n'est pas un plan. D'accord ? Pour progresser, il nous faut la parole de Dieu et toute la parole de Dieu. Il faut avoir une vision de toute la parole de Dieu. Même des endroits un peu difficiles. Ah ouais. Ah ouais, quand même. La loi de Moïse, c'est difficile. Il y avait tellement de sortes de sacrifices à apporter. C'est incroyable. Je ne pourrais pas tous les énumérer, mais il y en avait des dizaines et des dizaines de sacrifices différents. Une fois, je l'avais noté, je l'avais laissé dans ma Bible, mais je ne l'ai plus, là. Tous les sacrifices, le sacrifice de reconnaissance, le sacrifice des péchés, le sacrifice d'expiation, là, etc. Il y en a tellement, c'était compliqué pour comprendre que tous ces sacrifices ne menaient à rien, alors que nous, on a un seul sacrifice. Et il mène à tout. Mais quand on lit la Bible, on ressent ces choses-là plus encore. Nous devons avoir un plan. Un plan pour louer et adorer le Seigneur. Jésus parle de ses adorateurs en esprit, en vérité. Dites-moi, si vous deviez vous noter de 1 à 10, vous savez, quand on a mal, on note la douleur. Votre louange et adoration de 1 à 10, elle a combien ? Voilà, c'est juste la question, personne ne répond. Hein. On doit avoir un plan aussi, une stratégie pour essayer de s'approcher davantage du Seigneur. De se dire, bon, c'est bien, là, c'est bon, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, mais ce que j'aimerais, c'est avoir plus de contact avec le Seigneur. Être plus proche de Dieu. Plus proche de Dieu. Un plan pour mon âme. Vous avez un plan quand vous allez faire des courses pour ce que vous allez manger ? Nous, quand on part en bateau, par exemple, il y a tous les repas, là, on a un plan, hein, on charge. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce que tu as acheté ? Ben, j'ai acheté 50 kilos de frites. Ah ouais, mais elles sont congelées, les frites, là. On n'a pas de congélateur. Ah ouais, c'est vrai. Alors, on va nourrir les poissons avec et puis on n'a plus rien à manger. On a un plan. Vous avez... C'est bon, les frites, mais quand même. Je vais prendre une autre image. Elle est biblique. La foi, c'est une lampe. C'est une lampe, comme elle se faisait avant, avec de l'huile. Et l'huile, on ne fait pas le plein une fois par mois, même pas une fois par semaine, mais deux fois par jour au minimum. On rajoute de l'huile. Et Jésus prend cette image avec les vierges folles et les vierges sages. Il y en a qui ont de l'huile, il y en a qui n'en ont pas. Nous devons avoir de l'huile et mettre dans nos lampes afin qu'aucune ne s'éteigne. Et Dieu veut, même s'il y a un lumignon qui fume parmi nous, il veut intervenir, il veut nous bénir. Alors ce matin, je vais simplement ouvrir mon cœur. J'espère que cette exhortation a commencé à nourrir votre foi et votre désir de faire un plan dans votre vie, un plan spirituel. Et de se dire oui, Seigneur, ça vaut le coup que je m'arrête un peu, que je prenne le temps à réfléchir devant toi et à me dire un plan pour prier, un plan pour louer le Seigneur, un plan pour lire la parole, un plan pour mes frères et sœurs, un plan pour la communion fraternelle, un plan pour l'Église. Il faut que j'ai quelque chose, il faut que ma foi soit nourrie par la parole de Dieu. Amen. Le diable le sait. Si dans l'Église nous menons tous notre plan personnel, l'Église sera indestructible, belle, comme le Seigneur le veut. Comme le Seigneur le veut. Et chacun de nous pourrons dire, Seigneur, tu n'as pas tardé. Tu as été à l'heure. Tu as été mon Dieu. Tu as fait ce qu'il fallait. On va prier, s'il vous plaît. Amen. Je me réjouis, Seigneur, de ta parole.